aujourd'hui et devenez un acteur du sauvetage de vie en Israël. Rendez-vous sur mda-france.org.
mda-france.org.
Magen David Adom.
Association au service de la vie.
Vous écoutez Radio J, il est 16h.
Au 387e jour de guerre en Israël, 4 réservistes de Tsahal ont été tués dans des combats avec le Hezbollah au sud Liban hier soir. Annonce faite par l'armée israélienne ce matin. Il s'agit du capitaine Avraham Yosef Goldberg, 43 ans, originaire de Jérusalem, du sergent-chef Gilad Elmalia, 30 ans, également de Jérusalem, du capitaine Amit Yaout, 29 ans, de Haïfa, et du major de réserve Eliav Amram Abitbol, 36 ans, d'Etan. 14 militaires ont été également blessés dans ces combats, dont 5 qui sont dans un état grave. Côté adverse, ce sont 3 membres du Hezbollah qui ont été tués dans l'échange de tirs. Un accident de camion a fait une dizaine de blessés après avoir percuté un arrêt de bus près de Tel Aviv. 4 personnes ont été grièvement blessées dans cet incident qui s'est déroulé au carrefour de Glilot, au nord de la ville ce matin. Le conducteur a été neutralisé, la police est sur place pour mener l'enquête. L'État hébreu organise une journée de deuil nationale en hommage aux victimes du 7 octobre. Une première cérémonie est prévue à 11h pour commémorer les soldats tombés au combat depuis le début de la guerre contre le Hamas. La deuxième cérémonie commémorera les civils tués par le groupe terroriste il y a un peu plus d'un an. À noter que les négociations sont en cours aujourd'hui à Doha entre Israéliens, Américains et Qataris pour évoquer un cessez-le-feu à Gaza. Cessez-le-feu associé à une libération des otages toujours détenus à Gaza. On revient sur la riposte israélienne en Iran. L'armée de l'air a ciblé plusieurs bases de fabrication de missiles dans le pays hier. Dans la nuit de vendredi à samedi, Tsahal a lancé l'opération « Jour de repentance ». L'armée de l'air a mis le cap sur l'Iran en traversant la Syrie et l'Irak. Près de 5 heures de mission en 3 vagues de frappes successives. Pascal Zunshine.
D'abord, les frappes ont visé des batteries de défense antiaérienne pour ouvrir le ciel aux appareils de Tsahal. Puis les objectifs visés pour la feuille de route, plusieurs cibles dans le secteur de Téhéran, mais aussi dans d'autres régions de l'Iran. Moins d'une heure après le début de l'opération, le porte-parole de Tsahal s'adressait au pays en pleine nuit pour confirmer que la riposte d'Israël à l'attaque iranienne du 1er octobre était en cours. 4 heures plus tard, un peu après 6 heures du matin, le général Agari revenait annoncer que la mission était terminée et que tous les appareils étaient rentrés à leur base. Cette mission, plus de 3000 km aller-retour, Tsahal s'y était préparé depuis de longues années, bien avant la guerre et avant la première attaque de l'Iran. Elle avait d'ailleurs été reportée au moins à 2 reprises après le 1er octobre, principalement à cause de problèmes météo. Toutes les capacités de l'aviation israélienne ont été sollicitées, dont les fameux chasseurs furtifs F-35, invisibles aux radars iraniens, qui ont lancé la première vague de l'offensive.
Notre correspondante en Israël, Pascal Zunshine. Réaction du côté de Téhéran, celle de l'ayatollah Ali Khamenei, qui a fini par réagir aux frappes israéliennes. Dans un message posté sur le réseau social X, le guide suprême iranien n'appelle pas à des représailles, mais il estime que le mal perpétré par l'État hébreu ne devrait ni être amplifié, ni minimisé. En attendant, le pays a convoqué une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer la riposte de l'État hébreu contre son territoire. Téhéran a pourtant ciblé Israël à 2 reprises cette année, nous rappelle Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël aux Nations Unies et à Paris.
C'est l'agresseur qui porte plainte devant les Nations Unies. Alors, c'est vrai que la clause 51 de la Charte des Nations Unies prescrit ce droit à la défense légitime, mais rappelons aussi à l'Iran la clause 2 du chapitre 2 de la Charte des Nations Unies qui interdit tout recours à la menace et encore moins à l'opération militaire, l'agression militaire, dans les relations entre États membres aux Nations Unies. Israël est un État membre.
Yehuda Lankri sur Radio J ce matin. En France, les débats sur le budget pour l'année à venir ont été mis en pause à l'Assemblée nationale après 6 jours d'échanges houleux sur la partie recette du projet de loi. À la clôture de la séance à minuit, il restait encore plus de 1500 amendements à examiner sur cette première partie du texte qui aurait dû en principe faire l'objet d'un vote final mardi prochain. Les débats devraient reprendre d'ici une dizaine de jours, le 5 novembre, soit après l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu la semaine prochaine. Du sport pour terminer ce journal avec avec du football et Kylian Mbappé qui a perdu son premier classico. Son équipe, le Real Madrid, a perdu à domicile 4-0 contre le FC Barcelone, son ennemi juré. En Liga, le championnat local, d'autres rendez-vous à suivre ce soir à la rencontre la plus attendue de la saison en Ligue 1, un match OM-PSG. Les Marseillais d'Adrien Rabiot accueilleront les Parisiens à partir de 20h45 dans un stade Vélodrome qui promet d'être bouillant.
Radio J
Comedy Club. Rendez-vous le mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces.
Comment vous me demandez si je suis Nicolas Raffal? Attendez, je confirme. Oui, c'est bien moi. Ouais. Nicolas Raffal. Le combien? Mardi 12 novembre, Palais des Glaces, Radio J Comedy Club, 20h. Ah bah écoutez, c'est avec un grand bonheur.
Avec la participation exceptionnelle de Philippe Lelouch et Sandrine Saroche. Réservation sur le site radioj.fr ou sur nos réseaux sociaux. Mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces.
Radio J Comedy Club au Palais des Glaces avec le concours du Maguen David Adom, mda-france.org.
MDA.
MDA France.
Association au service de la vie.
Radio J.
Pont Neuf, Shlomo Malka. Radio J.
Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Géraldine Schwartz, pour son livre « D'où nous venons » paru aux éditions Flammarion. Géraldine Schwartz, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir. Je vous avais reçu il y a quelques années pour un livre qui... depuis a fait le tour du monde et vous a valu beaucoup de prix, qui s'appelait Les Amnésiques. Mmh. Combien de traductions?
Une douzaine.
Et notamment, évidemment, en Allemagne, puisque vous êtes franco-allemande. Et là, donc, ce livre, D'où nous venons, vous avez cherché à fixer les différentes strates qui ont fabriqué l'Europe. Parmi ces strates, vous accordez une place au christianisme issu du judaïsme et auquel le paulinisme va donner son aspect abouti. Au fond, d'emblée, vous allez aux sources, et les sources, c'est tout ce que je viens d'évoquer.
Alors, il s'agissait pour moi de revenir aux trois grandes sources qui, selon moi, ont nourri les Européens, ont structuré nos sociétés, nos institutions, nos mentalités, nos pratiques et nos croyances. Et l'Europe est faite d'un cocktail de christianisme, capitalisme et liberté qui donnera plus tard la démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc le premier pilier est bien sûr le christianisme, ou même le judéo-christianisme, car je rappelle aussi à quel point le christianisme s'est inspiré du judaïsme, notamment en matière de valeurs, des valeurs qui imprègnent jusqu'à aujourd'hui notre système juridique et qui servent de compas moral à la société européenne.
Et dans ce couple Jésus-Paul, vous étudiez les relations entre les deux. Au fond, Jésus n'était pas chrétien, c'est le christianisme est né à propos de Jésus. En revanche, Paul a donné au christianisme un aspect nouveau, mais il n'était pas lui-même, je veux dire, il n'a pas connu Jésus. C'est aussi une religion à propos de Jésus.
Tout à fait. Alors Jésus-Christ lui-même ne voulait pas de schisme. Il voulait réformer le judaïsme. Et Jésus était revenu sur Terre deux siècles après sa mort...
Je pense qu'il n'aurait pas reconnu le christianisme.
Hein, parce que, alors Paul, vous l'avez évoqué, a grandement coloré le christianisme. Finalement, le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui et le pratiquons aujourd'hui, c'est le christianisme selon Paul. Ensuite, bien sûr, l'Église a pris une place de plus importante à partir du 4e siècle. Et là encore, finalement, ce n'est pas le royaume de Dieu qui est arrivé sur terre après Jésus, mais c'est l'Église. Les principes du christianisme tels que Jésus-Christ, enfin, à en croire le Nouveau Testament, les principes du christianisme ont été par la suite piétinés, dévoyés, pour servir une soif de richesse, de conquête et de pouvoir. Et
donc, d'où les croisades, etc., voilà, sur lesquelles voilà. Vous revenez.
Et donc, mais il est très important aussi, de ne pas confondre.
Voilà, vous revenez aussi, bien que votre ouvrage n'est pas un ouvrage polémique, vous ne l'avez pas encore dit, donc je le dis moi-même, mais il y a ensuite l'islam, dont vous dites qu'il a fait passer le continent d'une religion d'amour à une religion guerrière.
Alors, c'est pas l'islam qui a fait passer le continent à une religion, le christianisme à une religion de guerre. C'est la réaction à l'islam. Hein, c'est la réaction de l'Europe, enfin surtout de l'Occident chrétien à l'époque à l'islam, qui a façonné une identité chrétienne qui à l'époque était encore très vague en Europe. D'ailleurs, il y avait une grande porosité entre juifs et chrétiens en Europe, au point que parfois, dans les cimetières, on trouvait des tombes juives et chrétiennes. Beaucoup de chrétiens suivaient le Shabbat ou les règles alimentaires juives. Donc, la définition chrétienne, beaucoup plus précise, les contours d'une définition chrétienne sont réellement apparus à partir du XIe siècle, voilà, avec la première croisade.
Jusqu'au Xe siècle, l'Europe est un continent fortement christianisé.
Alors, au niveau de la population, non. Au niveau de la population, le christianisme n'est pas très ancré dans les sociétés. C'est Charlemagne qui va essayer, à travers l'éducation du clergé, d'encourager l'ancrage du christianisme dans la société. Mais une véritable identification des populations européennes au christianisme va seulement avoir lieu à la fin du XIe siècle, avec le lancement de la première croisade contre les musulmans. C'est là que les Européens vont se comprendre et se définir comme appartenant au christianisme. Et cela correspond aussi avec les premières persécutions des Juifs. Lors de la première croisade, des pogroms vont avoir lieu. Ce sont les premiers pogroms de l'histoire européenne, notamment à Strasbourg, à Metz, à Worms. Et par la suite, des pogroms vont se répéter dans l'histoire européenne. Et cela malgré les mises en garde de la papauté.
Alors il y a ensuite, c'est un gros livre et vous allez dans les détails, il y a aussi la bataille de Poitiers avec des tentatives de conquête et la victoire de Charles Martel qui arrive à repousser repousser les assauts, c'est un épisode qui a son importance.
Alors c'est un épisode qui a son importance, mais il faut savoir que avant Charles Martel, les Byzantins ont repoussé aussi les musulmans à Constantinople. Mais dans la mémoire collective, c'est la bataille de Poitiers qui a été ensuite instrumentalisée jusqu'à aujourd'hui par l'extrême droite pour incarner la résistance de l'Europe contre l'envahisseur musulman.
Alors toute cette histoire, vous la racontez, c'est important de le dire, sans appareillage et sans la moindre note de bas de page. Pourquoi avez-vous choisi de vous passer des notes de bas de page qui quand même aident, surtout pour des historiens, aident à retrouver un peu ses marques?
Alors, dans la mesure où nous essayons, enfin avec Flammarion, dans un ouvrage qui fait moins de 500 pages, d'apporter une grande synthèse de l'histoire européenne, des notes de bas de page auraient signifié de doubler le nombre de pages et de rendre la lecture totalement indigeste. Mais le livre a été relu par 3 historiens, et donc je pense que le résultat reste quand même assez rigoureux. Ce qui est important, c'est que j'ai vraiment essayé de donner une interprétation de l'histoire qui fait consensus parmi la majorité des historiens. Et l'objectif de ce livre, c'est un peu dans l'esprit des Lumières, de partager le savoir, de donner accès à des connaissances, afin de donner la possibilité à un public large de puiser dans le passé des repères et des clés qui nous manque dans le présent et à une époque qui est quand même marquée par une grande confusion. Et nous avons besoin absolument de repères et de clés et de regarder loin dans le passé, de la manière la plus intelligible et claire possible.
Alors, vous avez suivi un peu vous avez suivi un procédé, c'est que, dites-vous, d'un bout à l'autre de l'Europe, la société est divisée en trois ordres, les nobles qui combattent, le clergé qui prie et les paysans qui travaillent. Et vous avez suivi cet itinéraire, c'est-à-dire vous êtes parti du religieux, vous êtes allé vers l'économique et puis vous avez terminé par le politique.
Oui, ce sont presque trois livres indépendants dans un livre, hein, finalement. Mais il est important, quand on veut livrer une synthèse générale de notre vécu, enfin des expériences des Européens, de décloisonner autant au niveau des disciplines que des pays. Et donc j'ai essayé de dégager des liens entre les disciplines, la religion, le politique, l'économique, mais aussi la philosophie, l'art et les sciences. Et de faire des liens, de faire jaillir des liens entre ces disciplines et surtout entre les pays et les peuples pour révéler la cohérence d'une histoire européenne, transnationale.
Alors il y a un chapitre aussi sur les grandes conquêtes, et notamment la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et on sait maintenant, c'est une découverte assez récente, mais vous n'en parlez pas, c'est que on sait que Christophe Colomb était un marin portugais, je crois.
Non, j'en parle
pas. Vous ne saviez pas, non.
Non, mais c'est un livre qui est une grande synthèse de 3000 ans d'histoire. Donc, je ne suis pas rentrée dans les détails à ce point-là.
D'accord,
ce qui était important pour moi, Christophe Colomb, c'était qu'il était porté par deux éléments qui sont très importants dans le chapitre concernant le capitalisme, qui est l'or et Dieu. Et que l'or et Dieu sont deux motivations principales qui ont poussé les Européens à conquérir le monde et à servir des peuples non-européens.
Chapitre sur le capitalisme marchand. Alors, vous dites 3000 ans d'histoire, c'est vrai qu'il y a tout. Il y a la crise de 1929, il y a évidemment la Seconde Guerre mondiale sur laquelle vous avez écrit votre dernier ouvrage, et puis l'invention de la démocratie. Et on arrive au nœud gordien de votre livre. À quel moment vous situez l'invention de cette démocratie en Europe? Est-ce que c'est Socrate, Platon, Aristote, Rousseau, Montesquieu, c'est tout ça à la fois?
Ah non, c'est bien avant, hein, c'est la Grèce antique, en plusieurs étapes, la démocratie a vu le jour dans la Grèce antique et avait effectivement, comme aujourd'hui, comme définition, l'égalité des citoyens face à la loi et face au vote. Donc ça, c'est pas du tout une invention de nos démocraties modernes. Sauf qu'en Grèce antique, comme nous le savons, une grande partie de la population était esclave. Donc ça concernait seulement les citoyens masculins. L'idée démocratique va renaître principalement avec Rousseau, qui est le premier à définir une souveraineté populaire, c'est-à-dire un contrat entre le peuple et lui-même. Non pas avec un tiers, une autorité monarchique ou autre, mais avec lui-même. Et dans son essence, est constitué de lois que la population s'impose à elle-même et qu'elle s'engage à respecter. Et c'est pour Rousseau le meilleur moyen pour retrouver une forme de liberté qui existerait, selon lui, à l'état de nature et que nous aurions perdu en faisant société.
Alors, je regrette, mais vous pouviez pas tout analyser, je regrette que vous n'ayez pas consacré une place au dialogue des religions au Moyen-Âge, et notamment à des figures comme Maïmonide, etc., ou Averroès, hein, qui ont donné des lettres de noblesse à ce dialogue des religions. dont on loin aujourd'hui, alors... je vous le concède aisément.
Alors, si je parle d'Averroès, bon, je ne peux pas parler de tout le monde, mais je parle d'Averroès et je parle de cette communion des savants sous l'islam, hein, et en particulier à l'Andalous, dans l'Andalousie actuelle, sous le califat de Cordoue. Lors de la Reconquista, les chrétiens vont découvrir justement cette richesse de l'islam dont l'Europe a hérité, et grâce auquel l'Europe va découvrir Aristote, qui a été traduit par Averroès.
Est-ce que, c'est-à-dire, vous avez l'impression que tout ça fait consensus aujourd'hui, puisque vous êtes parti de l'idée que vous ne retenez que ce qui fait consensus, vous n'écrivez pas une histoire polémique. Là, vous savez que cette période a eu ses défenseurs et ses détracteurs. On a dit qu'on a trop enjolivé les choses. Bien sûr. Alors, dans ce débat-là, comment vous situez les choses ?
Ah ben, avec toutes ces nuances, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'enjoliver, mais il ne s'agit pas non plus de faire abstraction de cet héritage-là dont l'Europe a profité. Je pense que ça fait consensus parmi les historiens aujourd'hui. Quand je parle des historiens, je parle d'historiens internationaux, en général allemands, français, britanniques, américains. Ce sont mes sources principales.
Alors, Géraldine Schwartz, on a le sentiment, en vous lisant, que c'est la France qui a joué un rôle majeur dans l'édification de l'Europe. Je me trompe ?
Ah oui, oui. Non. Je pense que c'est la Grande-Bretagne qui, dans le livre, prend le plus de place. Que ce soit au niveau de l'établissement du système parlementaire, que dans le capitalisme, la révolution et la révolution industrielle. La partie sur le christianisme accorde une grande place à un empire qu'on a un petit peu oublié, c'est le Saint-Empire romain germanique, qui correspond plus ou moins à l'Allemagne et à l'Europe centrale actuelle, et qui est une entité assez complexe à comprendre. Et la France joue surtout un rôle important dans la dernière partie, intitulée Liberté, surtout à partir du XVIIe siècle, avec Louis XIV, dont la manière d'exercer le pouvoir va influencer l'Europe entière. Ce modèle de pouvoir centralisé, d'administration très forte, de fonctionnaires qui contrôlent un territoire entier, d'armées fortes, et qui fera concurrence au modèle anglais de modèle parlementaire anglais. Et pendant longtemps, c'est le modèle français qui va vraiment dominer sur le continent. Comme on le sait, ça a changé. Et ensuite, avec la Révolution française, bien sûr, la Révolution française, c'est un modèle, jusqu'à aujourd'hui, la Révolution française est invoquée dans le monde entier. Elle a inspiré des révolutions en Amérique du Sud, en Europe, et puis ensuite, lors des mouvements de décolonisation, a servi de modèle. Elle sert aussi de contre-modèle, la Révolution française. Bien plus...
Oui, on a vu ça à la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques.
Et Napoléon, bien sûr, donc, qui est le dernier grand pilier, où, sous Napoléon, l'Europe est devenue pratiquement française. Napoléon a exporté les idéaux de la Révolution hors des frontières de la France. Il a écrit des constitutions, il a apporté, à la fois le sang et les guerres, et avec sa plume, une certaine forme de liberté.
Alors, dans l'épilogue de votre livre, vous écrivez « Pour beaucoup de citoyens, le sentiment d'appartenance à l'Europe est réel, mais il reste vague. Prendre conscience de notre histoire commune et comprendre combien chaque pays doit aux autres, en Europe et au-delà, peut à bien des égards raviver la foi dans un projet commun. » Est-ce que vous sentez aujourd'hui, vous, franco-allemande, que l'Europe est en péril, qu'elle est en train de vaciller ?
Alors, l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui, l'Union européenne, a été fondée en réaction à la Shoah, au traumatisme des totalitarismes et des guerres. Et ce qui a émergé de ça, ce sont des normes de paix, de liberté et de démocratie. Et ces valeurs sont aujourd'hui en danger, car une grande confusion règne. Et je pense que peut-être qu'une des raisons, c'est que la définition de l'Europe comme mesure préventive contre ces crimes et ces traumatismes est trop restrictive, et qu'il faut avoir le courage d'aller beaucoup plus loin pour comprendre véritablement d'où nous venons, ce qui nous a structurés, et ne pas laisser le champ libre à l'instrumentalisation idéologique et historique.
On peut regretter que vous n'ayez pas donné la place qui convient à l'aspect à la place de la littérature, à la place du roman, à la place de la culture en général. Beaucoup de ceux qui ont construit l'Europe disent aujourd'hui on a failli parce qu'on aurait dû commencer par la culture.
Non, il y a une place importante à la littérature justement et au roman et à l'art. À commencer par l'influence de l'Église catholique sur l'art, où je compare la manière dont l'Église orthodoxe et l'islam, le lien entre ces croyances-là et l'image, a une grande influence sur l'art. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi en Europe, l'art a autant proliféré. Et par la suite, bien sûr, l'apparition du premier roman avec Arthur, hein, la légende du roi Arthur, et à quel point, bien sûr, la littérature et la musique a porté la culture européenne.
Alors, je relirai ce chapitre parce que il y a des choses qui m'ont manifestement échappé. Merci, Géraldine Schwartz. D'où nous venons, ce qui nous unit et ce qui nous divise, c'est d'une histoire de l'Europe. Et c'est paru aux éditions Flammarion. C'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. L'invité de Pont Neuf aujourd'hui était Géraldine Schwartz pour
Radio J.
Chaque matin à 7h40, vous retrouvez nos humoristes sur Radio J. Et si vous les retrouviez sur scène, le Radio J Comedy Club. Rendez-vous le mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces, avec la participation exceptionnelle de Philippe Lelouch et Sandrine Saroche. Réservation sur le site radioj.fr ou sur nos réseaux sociaux. Mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces.
Radio J Comedy Club au Palais des Glaces, avec le concours du Maguen David Adom, mda-france.org.
MDA.
MDA France.
Association au service de la vie.
Radio J.
Bonjour, c'est Philippe Lelouch. Je serai ravi de vous retrouver du 26 octobre au 10 novembre au Théâtre de la Madeleine pour mon show Stand Alone, mon one-man show. Du 26 octobre au 10 novembre, venez rire avec moi, moi avec vous. On en a bien besoin en ce moment. Je vous embrasse tous très fort.
Radio J.
Médiasphère, Emmanuel Aumônier.
Bonsoir et bienvenue dans Médiasphère, où je reçois le docteur Laurent Alexandre pour discuter de l'avancée de l'intelligence artificielle et de ses conséquences sur l'être humain. Nous pourrions devenir avant la fin du siècle une sorte de dieu immortel, c'est du moins la thèse que vous défendez dans votre dernier ouvrage paru chez JC Lattès. ChatGPT va nous rendre immortels. Alors, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément au courant de tout, que ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui génère du contenu écrit et capable de dialoguer avec nous. On peut lui faire toutes sortes de demandes. Alors, ce qui est drôle avec vous et avec votre trajectoire qui épouse celle de l'avancée de l'intelligence artificielle, c'est qu'en 2011, vous avez publié un essai sur la mort de la mort. On vous prenait un peu pour un fou, en tout cas. Après, on vous a un peu plus invité sur les plateaux télé à partir de 2017 et la guerre des intelligences. Mais on vous regardait toujours un peu comme une bête de foire. C'était presque, ou alors on vous prenait pas au sérieux, ou alors est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, ou est-ce que vous avez la sensation que les choses ont changé, que maintenant vous êtes davantage pris au sérieux?
Ben, les réflexions qui naissent dans la Silicon Valley, notamment à l'initiative des milliardaires de l'intelligence artificielle, sont assez mal connues par l'opinion publique en Europe et en particulier en France. Peu de vos auditeurs savent que plusieurs des milliardaires de l'intelligence artificielle dépensent des sommes folles pour tuer la mort, pour euthanasier la mort, pour nous rendre immortels et investissent dans des sociétés qui ont pour objectif d'augmenter...
On parle quasiment de 5 des 10 plus grands milliardaires.
Exactement. Une majorité des 10 plus grandes fortunes mondiales consacrent beaucoup d'argent à l'immortalité, à faire reculer la mort. Mais aujourd'hui,
Bonjour à tous, 16h30, 21h, c'est Radio Shalom. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue.
Bonne soirée, bon dimanche à vous tous. Vous êtes toujours sur Radio Shalom, le meilleur de la musique israélienne, votre émission des meilleurs tubes de radio israélienne. Ici avec vous, Meital Peretz Arnon, sur la réalisation. On commence par Osher Cohen, Zugot Kael et des couples comme ça.
תפסיקי לדבר אליי את שוב בראש שלי עד סוף היום שלי אני מת להתקשר אלייך ולהגיד לך מילים שלא אמרתי מעולם את מכירה אותי יותר טוב מכולם איך כל מה שעברנו נעלם היום אני נלחם את יודעת מה יכולנו להיות זוגות כאלה שרואים רק בסדרות אם היינו רק לומדים מטעויות איך נתתי לך ללכת אוכל אותי שככה זה נגמר אז קחי את הלב שלי במלא הוא נשבר וכמה זיכרון ממך נשאר שלא רוצה ללכת לא שלי, אתה כבר לא שלי תתחיל להתגבר עליי היה לך טוב איתי, עכשיו תכתוב אותי המילים שלך גדולות ממך נו תשאיר לי שירים שלא שמעתי מעולם המילות שלך זרמות אצלי בדם איך כל מה שעברנו נעלם נסעתי עד 200 רק לראות אותך נרדם אתה יודע מה יכולנו להיות זוגות כאלה שרואים עוד בסדרות אם היינו עוד לומדים מטעויות איך נתת לי ללכת אוכל אותי שככה זה נגמר אז קח את הלב שלי במלא הוא נשבר וכמה זיכרון שלא רוצה ללכת לא רוצה לא רוצה יכולנו לדבר במקום לזרוק אותי אותך ולוותר אם שנינו ניפגש בזמן אחר אני לא אתן לך שוב ללכת
שמעתי ברחוב ממכונית שעוברת איזה שיר שזכיר לי שעה מאוחרת התקשרת אליי אני כאן מחוץ לדלת בבקשה אל תעשי מכל זה סרט והיובש של הקור כבר פחות שורף אז למה באת אליי באת אליי עזוב לי את היד זה כבר נהיה כואב ושוב תגיד לי שזה אחרת אבל החיים מסתובבים כמו בגלגל ענק איך אתה בא כשנסע כבר חושב שהחיים שלי זה לונה פארק ואז בלי הכנה עושה בלב שלי שכונה מעביר לי ערוצים פתאום באמצע הסדרה בתחזית אמרו שיהיה לילה קר זה לילה קר בטח פונסה תרובי צעצוע יורים חיוכים אל הלב הפצוע תמיד צחקת עליי את בוכה מכל שטות מפחיד אותי לעשות איתך טעות והיובה של הקור כבר פחות צורף ואתה רצת אליי, רצת אליי לתפוס לי את היד, לתפוס לי את הלב ושוב תגיד לי נשאר קצת קר בלילה קר רק לך ורק לך נשאר קצת קר
Fade, l'on avec la grande roue et on va marquer ici une petite pause ici sur Radio Shalom. Ne quittez pas, on revient tout de suite avec waouh, quelle belle musique on va avoir avec Idan Ahmed, Ninetta et Brandanker et Noa Kirel, plein de belles choses pour vous. Alors, à tout de suite.
Vous êtes sur Radio Shalom.
La boutique bleue Florence Kahn, la même équipe depuis des années, vous offre chaque jour la qualité du fait maison et vous régale des meilleures chalottes de Paris, des produits traiteurs et des spécialités traditionnelles comme le tarama, le foie haché, le gefilte-fish, les charcuteries, sans oublier tous les délicieux macarons, les Lakers et les incontournables gâteaux au fromage. La boutique Florence Kahn, la seule et l'unique au 24 rue des Écouffes à Paris dans le 4e arrondissement, élargit ses jours et ses heures d'ouverture pour les fêtes. N'attendez plus pour passer vos commandes. 01 48 87 92 85 01 48 87 92 85 et également sur Instagram. Que ce soit pour votre mutuelle santé, votre auto, votre assurance commerce, votre assurance professionnelle, votre décennale ou tout simplement pour votre habitation, l'assurance comparateur depuis plus de 19 ans vous propose les meilleurs contrats adaptés à votre situation et en plus aux meilleurs tarifs. Sans perdre de temps sur des sites internet à chercher le moins cher, appelez-nous tout simplement et nous trouverons pour vous la meilleure offre. Vous nous téléphonez au 01 46 50 59 22 28 01 46 59 22 28 toutes nos adresses sur www.l'assurance.fr l'assurance s'écrit avec un S à la fin. À tout de suite pour de sacrées économies. L'assurance vous souhaite de bonnes fêtes de Ticherie.
Depuis le 7 octobre, 6000 étudiantes et étudiants de l'Université de Tel Aviv ont été rappelés dans des unités combattantes et se battent sur tous les fronts. Certains sont hélas tombés au combat ou sont blessés. 3000 d'entre eux ont repris le chemin de l'université. 3000 restent mobilisés. Nous, les amis français de l'Université de Tel Aviv, avons mis en place un fonds d'urgence pour les soutenir. Ce fonds finance des bourses d'études et des soutiens psychologiques avec notre faculté spécialisée dans le post-trauma. Soutenez les étudiantes et les étudiants combattants de l'Université de Tel Aviv en donnant en ligne sur allo-don, association française de l'Université Tel Aviv, et vous recevrez un reçu CERFA.
Sur les 20 médicaments les plus prescrits dans le monde, 7 sont directement issus des recherches fondamentales réalisées à l'Institut Weizmann des sciences de Rehovot en Israël. L'Institut Weizmann est l'un des centres de recherche fondamentales les plus prestigieux et les plus performants au monde. Mais tout cela ne se fait pas sans moyens. En ces temps de guerre, il n'est pas facile de convaincre qu'aider la recherche fondamentale est aussi une urgence. Le savoir, l'instruction, la science sont d'ailleurs les secrets de la réussite israélienne. Pour aider l'Institut Weizmann, rendez-vous sur www.weizmann-france.com. www.weizmann-france.com.
Jusqu'au 25 novembre, participez à la loterie solidaire du CASIP et tentez de remporter des lots prestigieux. Vous rêvez d'un SUV Peugeot 2008, d'un collier Messica, d'une montre Hermès, de billets pour un match de foot de la Ligue 1, d'une console de jeu, de billets d'avion? Il y a plus de 45 lots à gagner et à découvrir sur le site du CASIP. Chaque billet acheté contribue à aider les personnes les plus fragiles. Alors, n'attendez plus, participez dès maintenant à la loterie du CASIP et gagnez en solidarité. Information et tickets à 26 euros, disponible sur loterie-casip.fr ou au 01 49 23 71 40.
Bonjour, c'est Claude Boscherberg. Retrouvez-moi sur Radio Shalom pour Mémoire et Vigilance tous les mercredis de 20h à 21h.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Comme promis, le meilleur de la musique israélienne est revenu. Je suis Meital Peretz, Arnaud sur la réalisation ici avec moi. On continue notre émission de dimanche soir, encore Hanouka, dernier jour de Hanouka. Et donc, Giliti Mechadash, j'ai découvert à nouveau et une très belle chanson de Shuli Rand et Amir Ben Haïmoun.
Pitom giliti mechadash et ahavati elayich Kmo pam at nechshket, shotet milotayich Kmo helech bamidbar, beemtza kaitz cham Pitom kolech arev, pitom marech naveh פתאום אין שואלים, הם כבר לא משוטטים בקרמייך היפים, פתאום גיליתי מחדש. פתאום נפשי טהרה ומוחי צלול כמים, על ידי אמת קשועה ויש לי אור בין העיניים להם. כמו שמש חמימה, כמו קלה בחופתה, ביום שמחת ליבה, אני גיליתי מחדש. לכל דבר יש את, לא סתם חיכיתי, ההכרה אז נחשפה. לכל דבר יש את, לא סתם חיכיתי, ההכרה אז נפרצה ואני בכיתי, פתאום גיליתי מחדש. פתאום אני כמו תינוק שרק עכשיו נולדת, צעדיי הראשונים עושה ישר לתוך ידייך על ראשי, כמו מברכות אותי ביום בואי אלייך, ביום היוולדי, ביום שמחתי, ביום שהאל שוב עמד לצידי, אני נולדתי מחדש. לכל דבר יש את, לא סתם חיר
הזמן היו בי חששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי, אולי כבר לא אמר. בחלון קטן מולי בוע בפנסי החור, איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות. ולפעמים זה גם קורה לי בלילות, לחשוב על כל מה שרציתי להיות. ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר. לפעמים כשסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות. כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק.
מהזמן לפרטי דוטון אלא נינת טייב אבק טייק מי, קח אותי.
מי אמר לך שאת מוזרה? ומי אמר שזה אסור? ומי זרק לך איזו הערה? תגידי זה סגור. מי לחץ אותך לקיר? בתוך כל מי שהוא את יכולה לשמוע איזה שיר. אתה שומע את זה?
היא עושה לי את הבוקר, את הלילה, את היום. היא נוצצת, היא הורסת, משחק איתה, תופסת, רץ אליה, רץ אליה באדום. היא עושה לי את החופש, היא מותחת את הגבול. היא יפה, היא מסחררת, מפתה ומשחררת, ככה טוב לי להיות איתה זה חור. מדמיין אותה נתמדת ועוטפת את כולי, אני רוצה אותה עליי, אני חייב אותה אצלי. היא ישבה יותר מדי שנים בתוך ארון סגור, כשפתחתי לה אותו היא הפכה ברבור. שים לך חדשה שלי, החדשה שלי, שים לך חדשה שלי, החדשה שלי, זאת שים לך חדשה שלי, החדשה שלי, שים לך חדשה שלי. האפור הזה חונק, אני נכנע, לא מתאפק, מנער את הבנלי, עלי עלי, סתם כי בא לי לשחק.
החדשה שלי.
Avec sa nouvelle robe, c'est juste évident qu'il sera là après Linette Taïeb. Ils ont joué ensemble, ils étaient ensemble d'ailleurs il y a longtemps. Et bon, là il a pris un autre chemin, lui et sa nouvelle robe. On va terminer avec Pouch de Noah Kirel.
Bon,
bon.
זאת אשר רצית לבוא, אם כבר הגעת לפה, תגיד איך הגעת לפה. כולן ידעות אני רקסי, אין לי עצור אני ברקסים, נראה קילה קיפה פילה, מאמי אין לי אקסים. בא לי בא לי על הלב, עושה לי סנפים 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 נקרא אל אסור תגיד לי מה אני אגבור, עשית לא מדורק ווואי לי בא לי בא לי לסור. עושה תמיד עיניים למי שמסתכל, תשמור על הידיים אתה קצת מתבלבל. תודה על העניין ולכל מי ששואל, זה רק אני הפאוץ' והאחור של ישראל. אמרתי לו בוא נירגע, אמרתי לו בוא תירגע, חבל אתה סתם תיפגע, תפין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נו, קילה, מה הגילה, מרוב שאלות כבר נהיה לי תראה. עולי עולי על הלב, עושה לי סנפים 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 נקרא אל אסור תגיד לי מה אני אגבור, עשית למדורק ואולי 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 לסור. עושה תמיד עיניים למי שמסתכל, תשמור על הידיים אתה קצת מתבלבל. תודה על העניין ולכל מי ששואל, זה רק אני הפאוץ' והאחור של ישראל. אני לא דרמטית, זה בא להיות דומה.
Voilà les amis, c'est le vibe de dimanche soir, ici sur Radio Shalom. Nous on va terminer par ça, je vous souhaite une très belle soirée, encore Hanouka Samer, et on va se retrouver demain à 17h30 comme d'habitude ici sur Radio Shalom. Après nous, l'information, je vous souhaite encore très belle soirée et bonne semaine.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël.
Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
Faites votre don sur KKL.fr.
Retrouvez toute la programmation du Mémorial de la Shoah sur www.memorialdelashoah.org. Le Mémorial de la Shoah, c'est 17 rue Geoffroy Lagny à Paris dans le 4e. Le Mémorial de la Shoah, un rempart contre l'intolérance et la haine de l'autre.
En Israël, chaque seconde compte. Sous la menace constante de missiles, le Magen David Adom est en première ligne pour sauver des vies. Ils ont besoin de vous, maintenant. Chaque don permet d'apporter des soins vitaux, de secourir les blessés et de protéger les civils. Faites un don aujourd'hui et devenez un acteur du sauvetage de vie en Israël. Rendez-vous sur mda-france.org.
mda-france.org.
Magen David Adom,
association au service de la vie.
Et si la musique apaisait mieux que les mots? La 22e édition du festival Jazz and Klezmer propose rencontres et créations à Paris et dans toute la France. Un hommage musical et poétique aux enfants d'Isieux. Les Noces Yiddish de la clarinettiste Marine Goldwasser, Giovanni Mirabassi pour un dialogue entre piano et saxophone. La world music de l'ensemble canadien Octopus. Le duo piano-contrebasse Or Barriquette et Laurent Assoulen. Le festival Jazz and Klezmer, c'est du 6 au 20 novembre. Tous les détails sur jazzandklezmer.com.
Vous sentez ce petit courant d'air qui passe à travers vos fenêtres? C'est le moment de tout changer. Mais attention, la pose de fenêtre, c'est un travail de pro. Ne prenez aucun risque. Appelez Bruno chez Best Fenêtre. Il a forcément la solution. Fenêtre en PVC, bois, aluminium, à vous de choisir. Et en plus, jusqu'au 31 décembre, profitez de 20% de réduction. Vous attendez quoi? Appelez Bruno au 01 43 73 36 36 ou sur bestfenêtre.fr. Ne laissez pas la chaleur s'envoler. Best Fenêtre est certifié RGE Calibat pour bénéficier des aides de l'État.
Bonjour, ici Maïtal Peretz. Je vous attends tous les jours à 17h30 sur Radio Shalom pour le meilleur de la musique israélienne avec beaucoup de tubes israéliens.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.